nous puissions nous préparer à son retour proche, ne plus faire de détours. Je remercie le Seigneur pour sa parole claire, même par Éphèse, même par rapport à Smyrne, cette parole que nous avons entendue. Louons le Seigneur parce qu'il parle d'une manière si claire. Et aujourd'hui, nous arrivons à l'épître adressée à Pergame et nous prions que le Seigneur nous parle directement. Est-ce que les frères peuvent lire Apocalypse 2, 12 à 17, l'épître à l'ange de Pergame? Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit.
Einem neuen Namen, den niemand kennt, als der ihn empfängt.
Amen. Amen.
Amen.
Amen. Und dem Boten der Gemeinde in Pergamon schreibe.
Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Amen. Hier, nous avons entendu au sujet des souffrances. Et à Pergame, cela continue aussi avec des souffrances. Le Seigneur se présente en tant que celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Pourquoi est-ce que l'Église à Pergame a besoin d'un tel Christ avec une épée aiguë à deux tranchants? Si nous considérons l'histoire, Smyrne nous montre la stratégie que l'ennemi a utilisée au début de la vie de l'Église. Nous l'avons lu hier dans Apocalypse 2, verset 10. Le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, verset 10, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours.
Le
chemin choisi par le diable pour détruire l'Église de Christ était la persécution. Il a préparé beaucoup de souffrances aux frères et sœurs au début. Nous le voyons aussi dans Actes, tout au début dans les Actes, quand l'Église a été suscitée, après que le Seigneur soit monté en ascension, l'Église a été suscitée et ça n'a pas duré très longtemps jusqu'à ce que la persécution apparaisse. C'était la stratégie de Satan au début. Mais le diable, avec le temps, a remarqué que cette stratégie ne fonctionnait pas, mais de plus, elle était contre-productive. Plus l'Église souffrait, plus elle s'étendait, elle se répandait, elle croissait. Alors, à un moment donné, ça c'est le temps de Pergame, le diable a changé de stratégie. Il a remarqué que s'il continuait de persécuter l'Église, alors le monde entier serait rempli de l'Église. Alors il a modifié quelque chose. Et de ce temps de Pergame, en 400 après Jésus-Christ, tout soudain, la persécution s'est arrêtée et l'Église du Seigneur est devenue une religion d'État. C'est vraiment étonnant. Jusqu'à ce temps, elle a été persécutée. Les chrétiens ont été tués, jetés en prison. Et ceux qui ont cru au Seigneur étaient des personnes méprisées, persécutées. Mais soudain, en ce temps, nous avons écrit sur le résumé, le temps qui débute avec Constantin le Grand, alors cette foi chrétienne est devenue une religion d'État. Et soudain, on a eu des chrétiens, ceux qui étaient persécutés sont devenus les personnes privilégiées et reconnues. C'était vraiment un changement de stratégie du diable. Et ce changement de stratégie a conduit au fait que l'Église du Seigneur, qui en fait a été appelée à sortir du monde soudain, elle se retrouve mélangée avec le monde. C'est pourquoi nous avons écrit Pergame, ça signifie d'un côté élevé, la foi chrétienne a été élevée à un système mondain, mais ça signifie aussi le mariage. En quelque sorte, l'Église du Seigneur s'est mariée avec le monde. Elle était liée. C'était vraiment pas si bête de faire cela. Cette stratégie, ce changement de stratégie n'était pas si bête. Tout à coup, il n'y avait plus de souffrance, mais le contraire, la reconnaissance par le monde. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne chose. Pergame nous montre que l'Église qui est mélangée avec le monde, ça c'est vraiment ce qui s'est passé d'un point de vue historique. Mais ce n'est pas notre centre pour cette conférence. Le point, ce n'est pas de refaire l'historique de l'histoire de l'Église. Mais l'orientation que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport à cela. L'Église à Pergame ne fait pas partie du passé. Ce n'est pas de l'histoire. Et puis ça s'est passé. Ce problème de Pergame nous concerne beaucoup aujourd'hui, car l'ennemi n'a jamais cessé de poursuivre cette stratégie. L'Église, de mélanger l'Église du Seigneur au monde. Et si nous regardons dans la parole du Seigneur, qu'est-ce que l'Église en réalité, nous devons vraiment être conscients à quel point ce mélange avec le monde est terrible. Beaucoup d'entre nous connaissent cette parole. L'Église, ça signifie l'assemblée de ceux qui sont appelés en dehors d'eux. C'est un groupe d'hommes que Dieu a appelé à sortir du monde. Comme à l'époque, lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, l'Égypte est une image de ce monde et le peuple de Dieu était captif en Égypte. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a appelé son peuple à sortir. Il a éloigné son peuple de ce domaine qu'est le monde pour le conduire dans un bon pays. C'est une merveilleuse image de ce que Dieu, par son Fils Jésus-Christ, fait avec chaque croyant. Par la foi et par le baptême, nous avons été sauvés du monde. L'Église est l'assemblée de ceux qui sont appelés en dehors d'eux. Ils doivent être un chandelier d'or, un témoignage face à ce monde. Ça signifie que l'Église du Seigneur doit être très différente de ce monde, doit être à l'opposé, doit être un contre-témoignage face au monde. C'est ainsi que ça devrait être, mais maintenant l'ennemi a réussi à ce que l'Église soit mélangée avec le monde, mais mariée avec lui. C'est vraiment très grave. Alors, le chandelier, il a aussi disparu si l'Église est mélangée avec le monde. C'est pourquoi l'Église à Pergame a besoin de, à tout prix, Christ en tant que celui qui a cette épée aiguë à deux tranchants. Le Seigneur se présente très brièvement ici. Il y a une seule caractéristique dont cette Église a besoin. C'est celui qui a l'épée à l'aiguë à deux tranchants. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne peut pas habituer dans une Église qui est mariée avec le monde. Il doit couper. Il doit y avoir une séparation claire entre l'Église du Seigneur et le monde. Ce monde est vraiment terrestre. L'Église est céleste. Le monde est dans les ténèbres. L'Église est un chandelier d'or qui brille face à ces ténèbres. Le monde est mort. L'Église du Seigneur est dans la résurrection. Il y a vraiment une séparation, une frontière entre l'Église et le monde. Aujourd'hui, nous avons aussi besoin de Christ en tant que celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Dans Apocalypse 1, nous voyons, nous avons lu ça jeudi soir, encore un détail précieux. Apocalypse 1, verset 16, au milieu, il est écrit, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Ça signifie que cette épée ne l'a pas, le Seigneur ne l'a pas dans sa main quand il vient à Pergame, mais cette épée sort de sa bouche. Dans Hébreux 4, 12, nous savons ce que c'est. Lisons Hébreux 4, verset 12. Est-ce que les frères peuvent lire cela?
Oder soll ich selber vorlesen?
Je lis moi-même. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
Amen.
Amen.
Amen. Ja. Dieses Schwert, das aus dem Munde des Herrn geht.
Cette épée qui sort de la bouche de Dieu, la parole de Dieu. À d'autres endroits dans l'Apocalypse, nous voyons aussi que le Seigneur porte ce nom. Il est la parole de Dieu. Ici, la parole nous dit, dans Hébreux 4, verset 12, la parole est vivante et efficace et tranchante. Là, nous devons nous demander, est-ce que la parole de Dieu a ces trois effets en moi? Je crois que nous sommes tous vivants, nous sommes d'accord avec vivants. La plupart d'entre nous ont l'habitude, lorsqu'ils lisent la parole de Dieu, et s'ils lisent et qu'ils mangent le Seigneur, ils ont l'attitude, ils aimeraient recevoir la vie. Souvent, nous prions, et c'est bien ainsi, « Seigneur, rends-moi vivant, rends-moi la vie par ta parole. » Le Seigneur a dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Mais ça, c'est qu'un seul aspect sur les trois. Ici, c'est écrit aussi que la parole de Dieu, elle est efficace. Est-ce que la parole de Dieu est efficace dans mon cœur? Ça, c'est une question importante. C'est merveilleux, ce qui est la vie, c'est important. Mais il doit aussi y avoir une efficacité. Elle doit œuvrer pour nous conduire à la repentance, comme nous l'avons entendu, et provoquer un changement en nous. si le Seigneur parle et nous sommes si vivants, mais qu'il n'y a rien qui change en nous, même après cette conférence, nous allons à la maison, nous sommes en fait déjà tous à la maison, rien n'a changé en nous, alors ce n'était pas efficace. Et en fin de compte, nous avons passé à côté du but. Non, la parole de Dieu que nous parle en tant que cette épée à quelconque à deux tranchants doit être efficace, doit provoquer un changement en nous. Et le troisième aspect, elle est tranchante. La parole de Dieu est tranchante. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Et dans cette propriété, c'est écrit, elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. À quel point la parole de Dieu peut entrer en nous, pénétrer en nous, c'est une question importante. C'est vraiment en lien avec l'état de mon cœur. À quel point la parole de Dieu peut pénétrer en moi, ça dépend de mon cœur. Si la parole de Dieu ne peut pas pénétrer en moi, à cause de l'épée. Je crois que l'épée du Seigneur est assez tranchante. Mais si mon cœur est si dur, aussi dur qu'une pierre, et qu'il est devenu gras, et on ne peut pas le toucher, alors le Seigneur peut venir avec l'épée la plus tranchante, ça ne va pas pénétrer. C'est pourquoi nous devons apprendre à attendrir nos cœurs devant le Seigneur. Et le Seigneur a vraiment parlé une parole tranchante pendant cette conférence et il va continuer de le faire parce que nous en avons besoin. Cette épée n'est pas là pour nous tuer, mais elle est là pour nous guérir. Ce souverain sacrificateur qui marche au milieu des chandeliers d'or, il aimerait guérir les églises. Et même cette épée, il veut couper par cette épée, il veut couper ce qui appartient au monde, ce qui n'a rien à y avoir. Il veut couper dans nos cœurs. C'est bon pour nous. C'est ça. Prenons cette parole que le Seigneur nous donne, même si elle est tranchante, elle doit séparer en nous âme et esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes souvent si mélangés intérieurement. De manière extérieure, on pourrait dire, OK, nous sommes mis à part du monde. Peut-être que nous n'avons pas tellement de mélange. Mais qu'en est-il de l'intérieur? La parole doit entrer à l'intérieur, en nous, séparer âme et esprit. Il est écrit aussi, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu doit pénétrer de cette manière en nous pour qu'elle juge nos sentiments, les pensées du cœur, qui nous montre dans quel point on est encore attaché à d'autres choses, comme nous l'avons vu hier, pour que nous puissions vraiment reconquérir ce premier amour pour le Seigneur. Il est écrit au verset 13, « Une créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Nous devons tous, un jour, rendre compte au Seigneur. Et si nous rejetons sa parole aujourd'hui, alors nous devrons nous tenir devant le tribunal de Christ et nous n'aurons pas de situation facile. C'est pourquoi le Seigneur dit aussi à Pergame, l'épée, Apocalypse 2:12.
Verset
16 aussi. Donc, cette épée aiguë, elle est là pour guérir. Repens-toi donc. J'espère que nous nous réjouissons beaucoup de cet appel du Seigneur à la repentance. Repens-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. À la fin, si nous n'acceptons pas la parole du Seigneur, si nous ne nous repentons pas, alors cette épée qui était prévue pour notre guérison, en fin de compte, il va devoir mener la guerre contre nous. C'est pourquoi prenons l'épée du Seigneur aujourd'hui, acceptons-la, repentons-nous, afin que plus tard nous expérimentions cette épée dans un autre aspect. C'est si important. Chacun d'entre nous peut se demander à quel point est-ce que je suis prêt à accepter cette parole, même si un frère, une sœur me parle, même si c'est une parole un petit peu plus tranchante, si c'est une parole dans Jacques 1, verset 19.
Schnell zum Hören. Sind wir schnell zum
Ici, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Est-ce que nous sommes prompts à écouter? Même si quelqu'un m'exhorte, lent à parler. Parfois, lorsque nous sommes exhortés, nous sommes lents à écouter et vite à nous justifier, vite dans les explications, donner des raisons pourquoi nous sommes tels que nous sommes. Et nous ne sommes pas non plus lents à la colère. Lorsque quelqu'un m'exhorte ou lorsque le Seigneur m'exhorte, à quel point je suis énervé et me dis, mais qu'est-ce qu'il y a tel et tel à me dire? Il est si bon ce verset dans Jacques 1, 19, que nous soyons vraiment prompts à écouter, lents à parler, lents à se mettre en colère. Verset 21, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur, c'est si bon, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui a la force de sauver vos âmes. Apprenons à accepter la parole de Dieu avec douceur, ne pas réagir si vite, mais déjà laisser cette parole œuvrer en nous, car la parole que le Seigneur parle avec cette épée à deux tranchants, elle a la force de nous transformer, mais seulement si nous l'acceptons avec douceur. Nous avons besoin du Seigneur aujourd'hui, en tant que celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, que le Seigneur coupe en nous tout ce qui est mélangé, tout ce qui est mélangé avec le monde. Et ce que le Seigneur dit dans l'église à Pergame, verset 13, c'est vraiment très important. Et le fardeau principal pour cette réunion, c'est que nous ayons vraiment une réalisation très profonde à quel point c'est terrible si l'Église apprend, habite là où Satan a son trône. Le Seigneur dit à Pergame, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. C'est terrible que nous ayons une telle réalisation de ce qu'est le monde. Ce monde, frères et sœurs, n'est pas quelque chose d'anodin. C'est l'endroit où Satan a son trône. Et si l'Église se tient là où Satan a son trône, alors il y a quelque chose de très très fort qui s'est passé. L'Église est le royaume de Dieu. Ce monde, à l'opposé, est le royaume de Satan. Dans le point 10, il y a un certain nombre de versets qui ont été écrits qui montrent tous que ce monde, le point C, est entièrement le royaume de Satan. C'est l'endroit où il a son trône. Dans Matthieu 4, Satan a proposé au Seigneur de lui donner toutes les richesses de ce monde. Le Seigneur n'a pas corrigé. Non, mais c'est pas vrai. Ce monde t'appartient pas. Le Seigneur lui a dit, il est écrit, tu serviras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Pourquoi est-ce que Satan peut lui proposer tous ces royaumes du monde? Parce qu'il est celui qui règne sur le monde. Aujourd'hui, nous voyons des gouvernements, nous voyons des rois, des présidents. Ce que nous ne voyons pas, mais c'est qu'il y en a un qui a un trône au-dessus d'eux et il les dirige même, c'est le diable. Pergame habite là où Satan a son trône. Et c'est le monde, le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, a caractériser celui en tant que en tant que celui le prince de ce monde. Mais comment est-ce que Satan a eu ce titre?
Comme
1 Jean nous le dit, ce monde est dans la main du malin. Lisons 1 Jean 5, 19. Il est écrit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier. Ce n'est pas juste 80% ou 90%. Pas seulement la partie méchante, mauvaise du monde, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Notre traduction dit, nous savons que le monde entier qui nous environne est dirigé par le malin. C'est vraiment ça. Même Paul le dit dans ses épîtres. Nous avons affaire à voir avec les gouverneurs de ce monde de ténèbres. Qui c'est qui règne dans ce monde? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est le gouvernement démocratique? Non. Si nous avons des yeux pour voir, c'est en fait Satan qui dirige ce monde. Il a son trône. Et si l'Église est mélangée avec le monde, même si, eh bien, elle a besoin de cette épée à deux tranchants. Et ce verset doit nous donner une impression intérieure très forte. Nous avons affaire, en fait, à Satan et à son royaume. Dans l'Église, nous sommes dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi il est si important que nous ayons une attitude claire à l'encontre du monde et que nous n'aimions pas le monde. Dans 1 Jean 2, 1 Jean 2, verset 15, n'aimez pas le monde. Est-ce que nous disons tous Amen à cela? Amen. De tout notre cœur, proclamons, n'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et là, il y a quelque chose d'important. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. J'espère que nous avons tous été touchés par cette parole à Éphèse, avec le premier amour. Ici à Pergam, nous voyons une chose que Satan aimerait utiliser pour nous enlever le premier amour et pour nous conduire à abandonner ce premier amour et pour l'orienter vers le monde. Satan ne vient pas et dit « Renie le Seigneur, ne l'aime plus, ce serait trop manifeste. » Non, mais il vient et nous propose quelque chose du monde. Et il aimerait nous rendre conscients que nous pouvons aimer le Seigneur, mais aussi le monde, mais ça ne fonctionne pas. La parole de Dieu nous montre que ça ne fonctionne pas. Le Seigneur a dit dans Matthieu 6 que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir le Seigneur d'un côté en tant que sacrificateur dans son royaume, mais aussi servir Satan et le monde. Non, ça ne fonctionne pas. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Notre cœur n'a de la place que pour une chose. Si dans mon cœur, il y a quelques compartiments qui sont remplis avec l'amour du monde, alors de manière automatique, l'amour du Père a diminué, voire disparu. Ils ont vraiment besoin d'un tel cœur, d'une telle attitude. Seigneur, un tel cœur, mon cœur doit être à 100% pour l'amour du Père. Seigneur Jésus, je ne tolère aucun amour envers le monde. Nous avons besoin d'une telle attitude. Dans Jacques 4, verset 4, un verset très saint et très coupant, il dit ici, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ça, c'est très fort. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Louons le Seigneur pour une telle épée aiguë. Peut-être que nous pensons que Satan est l'ennemi de Dieu. Ou les incroyants, les athées, ceux qui rejettent Dieu. Mais Jacques nous dit autre chose. Jacques nous dit que celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ça signifie que le danger subsiste, que même si nous sommes des croyants, parce que nous voulons être amis du monde, alors nous devenons ennemis de Dieu. C'est une chose très sérieuse. L'amour du monde n'est pas une chose anodine. Pensez bien que c'est l'endroit où Satan règne. Le Seigneur aimerait vraiment nous séparer de ce monde. Et cette séparation doit d'abord et en premier lieu être dans notre cœur. Ça ne signifie pas que nous allons nous isoler et nous mettre de côté. Dans Jean 17, le Seigneur a dit que le Seigneur ne nous enlève pas du monde. Nous sommes toujours là. Nous sommes là parce que nous devons briller. Mais dans nos cœurs, il doit y avoir une séparation très claire. Et qui peut faire cette séparation? Uniquement le Seigneur avec son épée à deux tranchants. Qui peut me libérer de l'amour du monde quand je remarque qu'il y a ici et là un compartiment qui aime le monde? C'est seulement ce Christ, ce souverain sacrificateur qui peut le faire avec son épée à deux tranchants. Disons au Seigneur, Seigneur, je veux t'expérimenter et te connaître en tant que celui qui a cette épée aiguë à deux tranchants. Viens en moi et sépare chaque jour dans mon cœur. Rends-moi saint, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi avec cette épée. Et le fait que nous ne devons pas aimer le monde, c'est un côté, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que si nous sommes une église qui est en bonne santé, nous avons une position claire à l'encontre du monde, alors c'est une chose normale que le monde ne nous aime pas. Dans Jean 15, 19, le Seigneur dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Comment vous sentez-vous lorsque vous lisez ce verset? Vous dites, dommage, j'aimerais bien être apprécié et reconnu dans ce monde. Ou bien disons-nous, amen. Amen, qu'il en soit ainsi. Si le monde nous aime, alors nous devons vraiment nous poser la question, où est notre position si nous ne savons pas glisser dans la direction de Pergame? Smyrne était bien, mais elle est devenue, tôt ou tard, elle est devenue Pergame. Et ça ne va pas du jour au lendemain, c'est vraiment très très subtil. Ici, un petit peu d'amour pour le monde, ici, un petit compartiment dans mon cœur que je garde, et avec le temps, nous sommes plus mélangés même que nous le pensons. Un bon indicateur, nous pouvons vraiment utiliser ceci, ce qui dit ici, la situation normale, c'est que le monde nous hait, c'est que nous ne sommes pas reconnus par le monde, et ça c'est très sain. Si l'Église est saine, lorsque l'Église... C'est une situation où l'Église est contre le monde et le monde contre l'Église. C'est très bon. Ensuite, nous devons voir à Pergame, il y a encore quelque chose qui est mentionné au verset 13, Apocalypse 2, 13. Il dit ici, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Ici, il y en a un qui nous est présenté, il s'appelle Antipas. C'est un bon nom. Antipas signifie contre tout. Louons le Seigneur. Nous avons un enfant qui a comme deuxième prénom Antipas. Louons le Seigneur. Antipas est un bon nom contre tout. Et qu'est-ce qu'est tout? Contre tout, ici, il y en a un qui est contre tout ce qui est du monde, qui veut entrer dans l'Église. louons le Seigneur, parce qu'à Pergame, il y a un Antipas, il y a un témoin fidèle. Mais la parole le team fidèle veut aussi dire martyr. Et c'est ce qui est arrivé avec cet Antipas, puisqu'il a été mis à mort chez vous. Il en est ainsi. Si nous voulons être un Antipas qui veut être contre tout, qui est du monde et tout ce qui vient de Satan qui aimerait entrer dans l'Église, en fin de compte, on est mis à mort par ceux qui ne veulent pas cela. Malgré le fait que l'Église a retenu son nom, ils disent toujours qu'ils sont attachés au Seigneur, qu'ils ont la foi, ils n'ont pas renié la foi. Mais ça, c'est quelque chose d'extérieur, mais intérieurement, ils sont liés au monde. Et quand Antipas se lève et dit la vérité, leur dit la vérité, qu'il utilise cet Antipas pour venir avec cette épée à deux tranchants, alors il est mis à mort. Il est jeté et persécuté. Et en fin de compte, tu es même persécuté par les croyants. Si les croyants sont si mélangés avec le monde, alors même eux vont persécuter ceux qui sont des Antipas. Chez Antipas, nous voyons qu'il n'est pas suffisant que nous n'aimons pas le monde. Ça, c'est un côté, n'aimer pas le monde. Le deuxième aspect, c'est que nous avons besoin d'une position claire contre le monde, contre Satan. D'un côté, il s'agit de ne pas aimer le monde. Nous veillons à ne pas avoir quoi que ce soit avec ce monde. Mais Antipas est quelqu'un de clairvoyant et qui voit l'injustice, qui voit l'iniquité, qui voit aussi ce qui est entré dans l'Église et qui se tient clairement, qui a une position claire contre cela. Et il est un témoin. Qu'est-ce qu'un témoin? Témoin est quelqu'un qui dit la vérité. Un témoin qui n'utilise pas sa bouche, ce n'est pas un témoin. Un témoin, lorsqu'il est en justice, s'il est là assis et ne dit rien, ce n'est pas un témoin, mais c'est un spectateur. Cela doit nous montrer que si nous voulons être un témoin fidèle comme Antipas, alors nous devons consacrer notre bouche au Seigneur afin que nous puissions parler clairement la vérité à ceux qui nous entourent. Dans ces derniers mois, le Seigneur nous a clairement montré que nous devons apprendre avec les hommes, avec les connaissances que nous avons, nos amis, nos parents, avec nos enfants à l'école, avec nos collègues de travail, nous devons apprendre à leur proclamer clairement la vérité. Si nous sommes toujours sympathiques et nous n'avons que des paroles douces, alors il n'y a pas d'épée en fin de compte. Et peut-être que personne ne va s'achoper à nos paroles, mais il n'y a personne non plus qui va être gagné pour le Seigneur. Quand le Seigneur a parlé dans les évangiles, alors il y a toujours une séparation. Le Seigneur a même dit, une fois, je ne suis pas venu pour vous apporter la paix, mais l'épée. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce qu'il veut venir et puis être quelqu'un qui apporte le trouble? Non. Le Seigneur va apporter la paix, mais lorsqu'il a parlé, il veut dire par là que quand lui, il parle, il y a toujours une séparation entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Qu'en est-il lorsque je parle? Est-ce qu'il y a aussi une séparation? Ou est-ce que les hommes restent indifférents et sans réaction? Vous savez, cette épée quelconque à deux tranchants, nous l'avons besoin avant tout pour nous, pour que le Seigneur puisse coupé dans nos cœurs. Mais ensuite, le Seigneur veut nous conduire à l'étape suivante pour que nous puissions parler aux hommes. Comment est-ce que le Seigneur parle aux hommes qui nous entourent? Le Seigneur ne descend pas directement du ciel, il n'utilise pas ses anges, il parle par nous. Et nous devons être de telles personnes qui disons la vérité, afin que le Seigneur puisse parler aux hommes, afin qu'ils soient sauvés. Le Seigneur désire que les hommes soient sauvés. Et cela ne va fonctionner que s'ils entendent clairement la vérité. Seigneur, soyons tous ces Antipas, cet Antipas corporatif, une église qui est contre tout ce qui est du monde, qui se tienne clairement dans son cœur, une église dans laquelle le Seigneur peut vraiment exercer cette église, cette épée tranchante. Un merveilleux exemple, c'est Noé. Dans Hébreux 11, verset 7, je vais vous le lire encore. Hébreux 11, verset 7, il est dit ici, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé n'a pas juste bâti l'arche pour sauver sa famille, mais cette arche, en même temps, était un témoignage pour condamner le monde. Ça signifie pas que Noé n'a pas aimé les hommes, certainement pas. Certainement qu'il a beaucoup prêché la parole. Nous dit qu'il était un prédicateur de la justice. Il a prêché pour appeler les hommes à la repentance. Mais pendant qu'il bâtissait l'arche, qu'il s'est préparé au jugement de Dieu, eh bien, il a construit une condamnation envers le monde. Il a prononcé cette condamnation. Nous devons être de telles personnes, de telles antipas. C'est pourquoi il n'est pas suffisant de dire je n'aime pas le monde. C'est très bon, ça. C'est un très bon aspect. Nous devons aller faire un pas supplémentaire et dire, Seigneur, dans mon cœur, je me tiens contre ce système de Satan parce que j'ai reconnu que c'est un système qui retient les hommes captifs. Satan utilise ce monde pour garder les hommes dans les ténèbres. Si nous voyons cela, alors nous aurons davantage un cœur pour les hommes. Si nous prions, si nous prêchons contre le monde, ça signifie pas qu'on est contre les hommes. Au contraire, par le Seigneur, nous aimons les hommes, nous prions pour eux et nous combattons pour que la plupart soient sauvés. Mais nous devons voir en cela quel système Satan a construit. Paul a dit que le Dieu de ce siècle qui a aveugler le sens des hommes afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Il y a tant de choses que nous voyons dans ce monde qui, d'un premier regard, sont pas si mal, mais en fait, c'est un outil pour aveugler les hommes. Nous devons voir cela clairement. Antipas était quelqu'un qui avait une position claire et qui se battait contre les choses de Satan. Et depuis plusieurs mois, nous avons expérimenté avec plusieurs frères d'être dans ce domaine d'Antipas. En janvier, nous avons pris chaque jour une demi-heure pour prier et lier l'iniquité dans ce monde et prier pour les hommes pour qu'ils soient sauvés. C'était vraiment une bonne expérience, merveilleuse expérience. C'était une nouvelle expérience et une bonne école. Pas seulement prier pour nos propres fardeaux, mais d'être des antipas, quelqu'un qui tient contre ce monde et ce que Satan est en train de mettre en place. Si nous avons des yeux pour voir, alors nous voyons qu'il y a tant de choses que Satan fait en ce temps pour ce que les hommes soient des esclaves pour lui. Frères et sœurs, nous ne devons pas être naïfs. Parfois, je suis effrayé à quel point nous sommes encore partiellement naïfs. Nous pensons que le gouvernement a de bonnes intentions à notre égard et que les médias nous disent la vérité et nous disent que ce qui est vraiment passé, certainement pas. Certainement pas. Nous ne devons pas être naïfs et si confiants. Ce monde entier repose dans la main du malin. Dans ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Nous avons expérimenté et vu cela. Nous ne devons pas être naïfs. Antipas doit être quelqu'un qui voit toutes ces choses. Et comment pouvons-nous voir cela? En regardant les nouvelles, en étudiant, en lisant beaucoup d'études scientifiques. Aujourd'hui, nous ne savons plus ce que nous devons croire. Aujourd'hui, c'est si dur de trouver des nouvelles qui sont à 100% justes ou de trouver un scientifique qui dit la vérité. C'est pratiquement impossible. C'est pourquoi nous avons besoin du Seigneur qui nous donne ce regard qui passe au travers. Et si à Pergame, nous voyons une des deux récompenses, c'est que le Seigneur nous donnera de la manne cachée. Au vainqueur à Pergame, le Seigneur va donner de la manne cachée. Où est-ce qu'on trouve de la manne cachée? Où est-elle? Et dans le Saint des Saints, dans l'arche de l'Alliance. Si tu veux de la manne cachée, tu dois faire tout le trajet jusque dans le Saint des Saints. Une personne qui se tient uniquement dans la cour extérieure ou même dans le lieu saint ne va jamais trouver de la manne cachée ou y goûter. Et cette récompense nous montre, pour être un antipas, pour être quelqu'un qui est vraiment contre le monde, qui voit ce qui se cache derrière ce système, pas seulement ce qui est extérieur, il doit être une personne qui a une habitude, l'habitude d'entrer, de faire tout le parcours jusqu'au bout. Relisez le psaume 73. Ce psaume 73 devrait avoir, doit avoir le « N'aimez pas le monde », le titre « N'aimez pas le monde ». Et là, il y a un verset clé qui apporte vraiment un tournant. On peut le lire. C'est le verset 17 où le psalmiste nous dit un point où vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passait dans le monde jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Amen. Comment pouvons-nous regarder vraiment au travers dans ce monde pour que nous ne soyons pas si naïfs et croyants confiants dans ce monde? La solution, c'est vraiment de pénétrer dans les sanctuaires de Dieu jusqu'au Saint des Saints et dire au Seigneur, Seigneur, je veux vaincre et avoir accès à cette manne cachée. Et j'aimerais être dans le Saint des Saints, te servir et aussi regarder au travers de ce que Satan fait. C'est si important, frères et sœurs, ne pensez pas que c'est une petite chose, que ça n'a rien à voir avec nous. Bien sûr que nous pouvons fermer les yeux, fermer les oreilles, plus rien voir, plus rien écouter. Mais Antipas n'est pas une personne comme ça. C'est vraiment une personne qui se tient contre ce système de Satan et qui combat. Un verset que j'aimerais lire, c'est 2 Thessaloniciens 2, verset 7. 2 Thessaloniciens 2, verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Ce verset parle de la période que nous vivons aujourd'hui. Si nous regardons ce qui nous entoure, nous voyons que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il y a tant d'iniquité qui agit autour de nous. Et ceux qui devraient faire les lois, mais en fin de compte, ce sont ceux qui commettent l'iniquité. C'est vraiment ce qui est en train d'arriver. En Allemagne, dernièrement, nous avons vu que toute une série de politiciens qui font les lois, qui doivent porter des masques, ils ont gagné des millions grâce à ces masques. Cela est sorti dernièrement ici en Allemagne, il y a quelques mois, lorsqu'ils en ont parlé. Oui, mettons le masque pour que nous puissions rester en bonne santé. Alors on a pensé, ah, ils ont des bonnes intentions. Et leur cœur veut que la bonne chose, même en fin de compte, les choses viennent à la lumière, qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, ils se sont enrichis grâce à cette loi. C'est pourquoi j'ai dit, nous ne devons pas être naïfs. Ne pensons pas que c'est une situation isolée, c'est la pointe de l'iceberg. Tout est corrompu. Tout est corrompu. Pensez-vous que le gouvernement fait la volonté de Dieu lorsqu'elle dit, les hommes peuvent se marier avec des hommes et les femmes avec les femmes? Et en Allemagne, il y a une loi qui est en consultation qui dit que les enfants peuvent choisir leur sexe. C'est vraiment le mystère de l'iniquité. Ou lorsque le gouvernement nous enlève tous les droits et il redonne un droit uniquement à ceux qui ont un passeport de vaccination. Pensez que c'est juste? Certainement pas. C'est le mystère de l'iniquité. Et nous devons être des antipasses qui voyons cela, qui n'avalent pas tout cela. Je ne dis pas que nous devons combattre cela extérieurement, mais dans nos cœurs, nous devons être clairs. Ce monde est corrompu. Lorsque ce mystère de l'iniquité vient à la lumière, nous devons être de telles personnes qui sommes dans le Saint des Saints. Là, nous recevons vraiment la clarté au sujet des choses qui sont en train d'arriver. Et cette situation actuelle de coronavirus, tu ne peux pas recevoir la clarté au travers des études. Il y a tellement d'études qui sont manipulées et changées. La clarté, tu l'obtiens uniquement dans le Saint des Saints. Dans le sanctuaire, nous devons effectuer ce service, prier et tenir ferme pour le plan de Dieu. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Lorsque je vois les hommes dans le monde actuellement, il y en a tellement qui sont envahis de la peur et de la panique. N'avez-vous pas pitié de ces gens? Je ne peux pas juste fermer les yeux et puis je me concentre sur l'Église et sur la parole du Seigneur. Non, nous devons prier pour les hommes et combattre. Et lorsque nous en avons l'opportunité de parler la vérité et chercher le Seigneur, dire au Seigneur, « Seigneur, montre-moi, je veux voir ce qui se cache derrière tout cela. » J'aimerais vraiment libérer ces hommes de leur panique et de les conduire à toi. Ils devront être de tels antipasses. C'est pourquoi, avançons. C'est la meilleure protection par rapport à l'amour du Seigneur. Si tu es une personne qui se tient continuellement dans le sanctuaire, c'est la meilleure protection pour ne pas perdre ce premier amour. Si tu es là et tu te tiens avec le Seigneur contre Satan et contre ce système qu'il a inventé pour retenir les hommes captifs, alors tu seras vraiment une personne qui va avoir le premier amour pour le Seigneur. Le Seigneur nous a montré dernièrement que de beaucoup prier contre l'iniquité nous a donné un amour pour les hommes. Mon expérience, c'est que mon cœur devient toujours plus large pour les hommes. Alors, nous pouvons aussi parler de manière efficace avec les hommes. Louons le Seigneur, frères et sœurs. Vraiment, donnons de la place au Seigneur. Laissons cette épée aiguë à deux tranchants agir et devenons de tels antipasses. Ce serait merveilleux si le Seigneur gagnait des antipasses avec nous. Fidèles pour le Seigneur, contre le monde et pour les hommes. Alors le Seigneur nous donnera de la manne cachée et la deuxième récompense sera de nous donner un caillou blanc. Louons le Seigneur. Et ce caillou blanc est très précieux. Nous ne pouvons pas faire grand-chose aujourd'hui, mais de ce temps, ce caillou blanc était un signe d'une certaine reconnaissance. Quand le Seigneur donne le caillou blanc au vainqueur, cela signifie qu'il les reconnaît et qu'il les laissera régner avec lui. Il en était ainsi lorsqu'il y avait un combat à l'époque. Ceux qui ont gagné un combat recevaient un caillou blanc en tant qu'une reconnaissance. N'est-ce pas bien? Ne voulons-nous pas recevoir ce caillou blanc parce que nous avons couru la course jusqu'à la fin de manière fidèle, même s'il y a beaucoup de choses qui s'opposent à nous, même si le monde nous hait, courons la course. Paul a dit, j'ai accompli la course. Il a reçu la couronne de justice. Il avait certainement reçu ce caillou blanc. Et aussi en justice, à l'époque, lorsque quelqu'un était reconnu innocent, il recevait aussi un caillou blanc. Et c'est si approprié pour nous aujourd'hui. Un jour, nous nous tiendrons tous devant le tribunal de Christ. Mais si nous laissons le Seigneur juger en nous, si nous laissons cette épée agir, alors plus tard, devant le tribunal de Christ, nous recevrons ce caillou blanc et nous reconnaîtra en tant qu'une personne innocente. Et parmi les œuvres, les invités d'honneur recevaient aussi à l'époque un caillou blanc. Et c'est si merveilleux. C'est un autre aspect. Soyons de telles personnes où lorsque le Seigneur revient et que les noces de l'agneau débuteront, que nous ayons ce caillou blanc. Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'être un Antipas aujourd'hui? Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'être une personne qui rejette toute reconnaissance qui vient des hommes? Il n'y a vraiment aucune comparaison. J'ai vraiment le désir d'être une personne qui est rejetée par le monde aujourd'hui, mais qui sera reconnue par le Seigneur au travers de ce caillou blanc lorsqu'il reviendra. Amen. Soyons aussi volontaires à souffrir pour cela, et que nous ne soyons pas aveugles et naïfs dans ce monde. Que le Seigneur vraiment illumine nos yeux dans le Saint des Saints. Amen.